Nous allons reprendre. Je vous laisse toutes et toutes rejoindre vos places. Donc nous allons passer à la seconde table ronde de l'après-midi, présidée par Bruno Marmol. Donc je vais laisser se présenter et présenter ses intervenantes sur une table ronde qui s'intitule « En route vers l'A11Y, où en sommes-nous ?»
Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde sur « En route vers l'accessibility ». Où en sommes-nous ? Donc, ça sera une table ronde avec des retours d'expérience. Donc, on a vu tout à l'heure le cadre législatif, le cadre de contrôle, et puis je dirais un petit peu le pourquoi on fait de l'accessibilité. Ben là, on va être un petit peu plus dans le pratique pour voir un petit peu comment certaines plateformes se sont organisées par rapport à cette mise en accessibilité. Donc moi je travaille au CCSD pour INRIA depuis environ 8 ans et j'ai été pendant près de 20 ans impliqué dans l'accessibilité au niveau associatif. Et donc je remercie le comité de programme de m'avoir demandé d'animer cette table ronde parce que c'est un sujet qui me tient évidemment très à cœur. Donc nous aurons des retours d'expérience. Le premier ça sera avec monsieur Rachid Berbache, qui est chargé de projet aux revues et archivage numérique à la bibliothèque universitaire de l'Université de Lille. Il est en poste depuis 2019 au département services à la recherche et aux chercheurs de la bibliothèque. Et il a coordonné le projet FNSO, ouvrir et rendre accessible une plateforme de revues pour les Hauts-de-France. Il interviendra en visioconférence, donc c'est pour ça qu'il est à ma droite. Il nous parlera de la plateforme pérenne et de sa mise en accessibilité numérique. Ensuite, nous aurons Christelle Fontaine, qui est coordinatrice éditoriale et chargée du numérique et des projets innovants aux éditions Quae. Et elle anime le groupe de travail accessibilité de la future Alliance des éditeurs scientifiques publics engagés dans la science ouverte. Et elle fait partie aussi du groupe accessibilité du réseau Medici. Et Christelle nous parlera des IPUB 3 nativement accessibles, retour d'expérience aux éditions Quae. Valérie Mansard, éditrice multi-support de métier depuis 20 ans, elle occupe la fonction de référente accessibilité numérique au sein d'ENS Éditions, presse de l'École normale supérieure de Lyon depuis 2017. Alors, elle nous parlera de ce métier qui est un métier un peu émergent, très transversal à l'activité de publication, et qui consiste à structurer, coordonner, animer la stratégie d'accessibilité numérique de la maison d'édition. Donc, c'est un métier qui n'est pas encore très connu, mais de plus en plus de gens prennent ce type de poste pour faire avancer l'accessibilité au niveau de l'édition. Et nous terminerons par Marie-Paul Redet, qui travaille aux éditions de l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, pour les intimes. Et elle est chargée des ouvrages de l'édition française du contenu du site Les Mémoires européennes du Goulag et des questions d'accessibilité numérique. Et elle nous parlera de la mise en accessibilité de ce site. Je donne tout de suite la parole à Rachid, si la technique fonctionne du premier coup.
Alors, je vais essayer de partager mon écran.
J'ai oublié de dire, on va réserver les questions pour la fin de des présentations. Donc, on va faire les quatre présentations qui dureront environ un quart d'heure chacune et de façon à garder un temps suffisant d'échange à la fin de la session.
Si vous pouviez me confirmer que mon diaporama s'affiche bien à l'écran.
Ça fonctionne impeccablement.
Super. Eh bien, je ne vais pas me représenter parce que ça a été très très bien fait au début de reprise. Avant toute chose, je tenais à remercier le comité Medici pour leur invitation et les remercier de me donner l'opportunité en fait, de présenter le portail pérenne et l'intégration de l'accessibilité numérique dans le projet. Alors, il faut savoir que lorsque le SCD a répondu à l'appel à projet du FNSO, le projet s'intitulait Aura HDF. Aura pour ouvrir, rendre accessible une plateforme de revue pour la région des Hauts-de-France. Donc, le projet a été porté par le service commun de documentation de l'Université de Lille, mais il a été mené en collaboration avec un autre service de l'Université de Lille, à savoir la direction de la valorisation de la recherche. En fait, au niveau SCD, on s'est occupé de tout ce qui était technique, la plateforme, l'accessibilité, etc., etc. Et la direction de la valorisation de la recherche se sont plus concentrés sur les questions éditoriales, les relations avec les auteurs, les relations avec les porteurs de revues, etc., etc. Nos partenaires, vous les voyez, vous voyez leur logo à l'écran. Notre financeur, je l'ai rappelé, c'est le FNSO. On a eu pour ce projet un financement d'un montant de 70 000 euros sur 2 ans, dont 35 000 euros par an. Alors, on avait 2 ans, dans un premier temps, on a eu 2 ans pour réaliser le projet, mais c'était un projet qui était chronophage, et donc on a mis 9 mois supplémentaires pour aboutir au projet. Le projet repose sur deux grands axes. Le premier axe, la création d'un portail numérique régional. En fin 2023, nous avons mis en production le site pérenne, et nous étions engagés à migrer progressivement 10 revues qui devaient être accessibles. Le deuxième grand axe du projet, c'est bien sûr l'accessibilité numérique. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce deuxième grand axe, il y avait la conception d'une maquette accessible et la création d'un guide de sensibilisation à l'accessibilité numérique destiné aux porteurs de revues. Voilà pour le projet. Sur cette slide, je vous ai mis une copie d'écran de notre portail pérenne. Et j'ai mis en bas à gauche le lien pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent parcourir le site. Alors, Pérenne, je ne sais pas si tu l'as dit, mais Pérenne, c'est la plateforme Pérenne pour plateforme d'édition de revues numériques. Donc, c'est un portail qui repose sur le logiciel d'édition électronique qui a été développé par Open Edition Lodel. Et les différentes revues, eux, vont utiliser la maquette Nova qui a été financée par l'Université de Lyon, et notamment la pépinière Prairial avec qui on a beaucoup travaillé. J'en viens à l'accessibilité numérique. J'ai mis une définition de l'accessibilité numérique sur cette slide. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que je pense que déjà en première partie, ça a déjà été fait. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'était que par rapport à l'accessibilité numérique, bon, bien sûr, c'est rendre le contenu accessible à tout le monde, quelle que soit la personne, mais c'est aussi rendre le contenu accessible, quel que soit le support utilisé. C'est-à-dire que certaines personnes vont préférer utiliser des écrans d'ordinateur, d'autres des smartphones, d'autres des tablettes, etc. Et donc là, l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité au niveau support. L'accessibilité numérique, c'est un sujet qui est très sérieux. Et donc, au niveau de l'Université de Lille, on s'est dit que ce serait bien de se faire accompagner en fait, par un cabinet d'audit, en fait. Dès le début du projet, en fait. On les a impliqués dans le projet, à la base du projet, en fait. Et il faut savoir que l'accessibilité numérique, ben, ça a un coût, en fait. Bien sûr, bon, je vous épargne tous les détails, mais j'ai dû faire 3 devis pour sélectionner un cabinet d'audit. Et sur les 3 devis qu'on a eus, il y avait un écart. Le plus petit montant, on était sur 12 000 euros et le plus grand, 25 000 euros. Donc, si vous vous lancez dans l'accessibilité numérique, sachez déjà que, un, ça a un coût, et deux, faites plusieurs devis parce que vraiment, on peut avoir des disparités importantes. Donc, le cabinet qui a été retenu, c'est le cabinet Urbiloc qui nous a accompagnés tout au long du projet. Un petit mot sur les obligations légales, parce que c'est le sujet qui a été abordé dès le début par le cabinet d'audit. Moi, ce que j'ai retenu par rapport aux obligations légales, c'est trois dates importantes. En 2005, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Donc là, en fait, les services en ligne de l'État doivent être accessibles aux personnes handicapées. Ça, c'est mentionné noir sur blanc. Ensuite, en 2016, on vient préciser cette loi avec la loi pour une République numérique. Et donc là, on va lister plusieurs obligations qui sont à l'écran, notamment le devoir de publier un SPAN, un schéma pluriannuel décliné annuellement, et l'obligation aussi d'afficher l'indication de conformité ou de non-conformité sur la page de présentation du site. Et ça, on va le voir après, il y a des amendes à la clé. La troisième date importante au niveau obligation légale, c'est en 2023, avec la création de l'article 47.1. Et en fait, c'est la désignation d'un organisme de contrôle, l'ARCOM. On a eu un invité dans la première table ronde, avec la possibilité de mettre des amendes en cas de non-respect de certaines obligations. Voilà pour les obligations légales. Dans cette partie, j'ai essayé de lister les grandes étapes qui ont jalonné en fait notre parcours accessibilité numérique. Donc, vous l'avez bien compris, il faut commencer par un audit en fait de votre site internet. Donc ça, c'est fait par le cabinet d'audit à partir d'un cahier des charges qui est rédigé par vous-même. C'est-à-dire que dans ce cahier des charges, c'est vous qui allez lister les pages qui devront être auditionnées. Donc là, il y a quand même un souci d'honnêteté. Il faut prendre des pages où c'est un peu difficile, où il y a des tableaux complexes, où il y a, je sais pas moi, de la vidéo, des choses comme ça. Il ne faut pas prendre des pages à auditionner où il n'y a que du texte tout simple. Il y a quand même. Notre cabinet d'audit nous a préconisé de donner toutes les pages les plus difficiles même. Voilà. Donc on peut aller jusque 15 pages parce que bon après faut vous n'êtes pas à une page près mais le maximum c'est 15 pages et parce qu'il y a quand même 106 critères à passer au crible sur les 15 pages que vous allez donner. Si vous donnez 20 pages, les 106 critères vont être passés sur les 20 pages. Donc sans surprise notre site n'était pas conforme. On a eu seulement 43% des critères qui étaient des critères du RG2A qui étaient respectés. Vu qu'on était en dessous de 50%, vous êtes déclaré non conforme. Mais ça, je trouve que c'était déjà pas mal comme résultat parce que la maquette Nova, à la base, n'était pas prévue pour être accessible. Donc, bon, voilà. Sans surprise, on était non conforme. À côté de ça, on vous donne bon, votre notation, mais on vous donne aussi une liste de préconisations une liste de préconisations pour en fait comment dire, rendre votre site accessible. On va vous donner une liste de conseils, de préconisations pour rendre le site accessible. Et donc là, vous repartez sur un nouveau cahier des charges, mais cette fois-ci à destination d'un informaticien qui va, en fonction de ses préconisations, développer la maquette en question. Donc c'est ce qui a été fait. Ça prend du temps, hein. C'est assez long. Et une fois que le site a évolué, en fait, vous pouvez vous lancer dans un contre-audit. Toujours avec le même cabinet d'audit. Non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même cabinet d'audit. Vous pouvez utiliser un autre cabinet d'audit, ouais, ça avait été mentionné. Et cette fois-ci, on a eu 79% des critères respectés. Et donc, notre site est partiellement conforme. Comme on avait bien travaillé, on a eu droit à une déclaration d'accessibilité qui est valable 3 ans. Voilà au niveau du parcours. Sur cette slide, je vous ai mis en fait, toutes les préconisations à suivre qui sont très simples à mettre en œuvre et qui permettent déjà de faire de l'accessibilité numérique. Alors, ça dépend à quel niveau on se base. Pour quelqu'un qui va, un auteur d'un article, voilà, ce qu'il peut faire, c'est par exemple accentuer les majuscules, faire des tableaux simples, utiliser l'italique avec modération. Voilà, il y a plusieurs listes de préconisations à faire qui sont très très simples à mettre en œuvre et qui vont vous permettre de gagner des points au niveau accessibilité, en fait, de respecter des critères d'accessibilité. On arrive à la fin de mon intervention. Là, sur cette slide, je vous ai mis en fait tous les la liste n'est pas exhaustive, mais c'est tous les développements informatiques qui ont été faits à partir des préconisations du cabinet d'audit. Je vous ai mis les principales, mais c'est vraiment une grande liste. Voilà, je voulais insister sur les contrastes. Parce que ça, c'est vraiment un gros chantier par rapport au RG2A. Quand vous respectez les contrastes forts entre le texte et le support du texte, vous gagnez beaucoup de points en critère RG2A. Donc, nous, on a fait développer aussi un outil de détection des contrastes faibles. C'est-à-dire que quand on discute avec les porteurs de revues au niveau intégration graphique, de leur site de revue. Alors, ils vont nous dire, moi, je veux du bleu, je veux le texte en rouge, etc., etc. On va faire comme ils demandent. On va leur créer leur site comme ils le demandent. Et on va passer cet outil de détection de contraste. Et s'il y a un contraste, des contrastes qui sont trop faibles, voilà, on rediscute avec les porteurs de revue pour rééquilibrer. On utilise la technologie dite responsive. Pour adapter le contenu que ce soit sur un écran, que ce soit sur un smartphone ou une tablette. Voilà, c'est cette technologie-là qui permet de s'adapter. C'est de plus en plus répandu, mais bon, voilà, elle n'existait pas avant. Des menus et des barres de navigation toujours à la même place. Des titres correctement associés au tableau, aux graphiques, aux figures. Ça, c'est important, surtout dans le placement du titre. Il faut, ce qu'on nous a expliqué, c'est toujours mettre le titre au-dessus du tableau, du graphique ou de la figure. Parce que quand vous utilisez la synthèse vocale, si vous mettez le titre en dessous, la synthèse vocale va lire tout le tableau et va vous donner le titre après. Donc voilà, il y a une certaine logique à mettre les titres au-dessus des figures. Amélioration des liens d'évitement sur les raccourcis pour faciliter la navigation. Amélioration de la navigation au clavier pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la manipulation de la souris et qui utilisent plutôt la tabulation. Il y a un déplacement qui est beaucoup plus logique qui a été mis en place. Utilisation de liens hypertextes explicites, etc., etc. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Au niveau du projet, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est bien entendu l'amélioration de l'accessibilité de la maquette. On l'a rendue accessible. Cette maquette Nova qu'on avait récupérée de l'Université de Lyon 3, on l'a remise à la disposition de la communauté scientifique. Et aujourd'hui, trois pépinières de revues se sont accaparées de l'outil. Alors, ils ont un site qui est accessible, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont accessibles parce qu'ils n'ont pas fait d'audit accessibilité. Ils n'ont pas de déclaration d'accessibilité. Néanmoins, techniquement, ils sont accessibles comme l'est notre site. Donc voilà. On avait rédigé un guide de sensibilisation à l'accessibilité numérique qui est téléchargeable sur le site de Pérenne dans l'onglet accessibilité. Et enfin, alors nous, comme je l'avais expliqué en début de mon exposé, Pérenne repose sur le logiciel d'édition électronique, la version 1. Et aujourd'hui, la version 2 est sur le point d'aboutir pour les revues. Hein. Elle n'est pas encore sortie, mais c'est dans les tuyaux. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une meilleure prise en compte de l'accessibilité numérique. Tout ça pour vous dire que voilà, au niveau université, le regard change par rapport au handicap. L'accessibilité devient en fait un sujet majeur en fait. Un, parce que il y a des amendes à la clé, et deux, parce que les gens comprennent que c'est d'une utilité très très importante. Une dernière chose, et puis je rends la parole, c'est que l'accessibilité, c'est l'affaire de tous, parce que en fait beaucoup de gens pensent que l'accessibilité, c'est on est handicapé à la naissance, mais en fait l'handicap peut venir au cours de la vie, et puis surtout l'handicap peut venir rien qu'avec la vieillesse, en fait, on est tous concernés. Quand vous avez 20 ans, vous voyez bien, et puis quand vous avez 70 ans, ben, la vue baisse, quoi. Voilà, je voulais finir par ce propos et vous dire qu'en fait, le regard de l'université via pour l'accessibilité commence vraiment à changer.
Merci,
merci à vous.
Merci.
Merci.